à voix nue. Ce soir encore, Jean-Michel Dian rencontre Barbara Hendricks. Tout de suite, l'amour de la vie, de l'art et de la famille.
Barbara Hendricks, vous avez toujours eu quelques retenues ou quelques appréhensions à vouloir être artiste, en tout cas à vous définir comme artiste. C'est venu tardivement. Vous avez toujours eu cette retenue. Est-ce que ça vient de Jeannie Tourelle? Est-ce que ce marquage artistique définitif comme un métier, comme une vie professionnelle, ça vous rebutait?
Je crois que moi, je l'ai vu le chemin de où j'ai commencé surtout, et là où elle était arrivée, elle, j'avais un respect pour le temps qu'il fallait pour arriver. Et moi, je me considérais toujours un élève. Et bon, à partir de 50 ans, je dis, bah, maintenant, peut-être je peux dire que je suis devenue artiste. Mais, par exemple, je vois des musiciens qui, après 2 ans de carrière, commencent à faire des masterclass. Moi, je n'ai jamais accepté de faire un masterclass. Je dis, mais masterclass veut dire master. Ou non? Et c'était juste le respect qu'est moi pour ce qu'il maître. De pas penser qu'après quelques années de carrière, que moi je vais maître. J'étais forcée de devenir maître parce que à la mort de Jeannie Tourelle, je cherchais d'autres professeurs de chant. Et j'ai pas trouvé. Des gens, j'étudiais avec des gens qui étaient très connus. Et j'étais plutôt triste à la fin de la leçon. Parce que à cause de cette relation qu'il y a avec elle qui m'a, à la fin d'une leçon avec elle, je suis allée tout de suite dans les pièces de répétition pour essayer de travailler, de garder dans ma tête ce qu'on avait fait pour pouvoir continuer ça pendant une semaine avant le prochain leçon. Et là, à la fin de ces leçons-là, j'étais plutôt triste. J'ai dit, oh, oui, mais il me parle des choses qui sont pas importantes. Il me parle jamais de phrasé, de couleur, d'une phrase. Il me parle que de technique et ça me rendait triste. Et bon, finalement, quand j'arrive en France, je cherche aussi, je ne trouve pas. Et comme j'étais aussi un étudiant de zen, j'ai un peu chez moi, j'ai réalisé que j'ai lu quelque chose qui dit qu'il y a un moment où l'élève est obligé de devenir son propre maître. Tu vois là, si je ne trouve pas. Et là, je commençais à dire, OK, la technique, ça ne m'a jamais intéressé, mais je dois essayer de savoir comment je chante, comment fonctionne ma voix. Et de l'écouter et de pas l'abîmer, sans perdre la curiosité de pousser toujours mes limites avec le répertoire. Et bon, voilà, ça a marché. j'avais peur parce que je n'avais pas, envie d'abîmer ma voix.
Vous dites la musique, c'est la langue, et la langue, c'est la musique. Ça, c'est également troublant de voir de quelle manière vous avez appréhendé les langues et comment vous les maîtrisez. Comment l'allemand, l'italien, le français surtout, puisque pour le répertoire, c'est ce qui est essentiel, est-ce que dans votre tête, vous hiérarchisez ces langues-là, ou ce sont les œuvres qui décident de la langue? Comment ça se passe dans votre tête?
Ah oui, d'abord, c'est certain qu'au début, je choisissais les chants, l'élite, pour les mélodies, la musique, plus que pour la langue. Mais plus tard, je commençais d'être attirée par certains poètes, la poésie, et des fois, j'ai fait un programme autour de poètes.
Vous avez chanté Baudelaire.
Oui, oui. Mais au début, c'était la musique. Il avait quelque chose de Schubert que j'avais envie de chanter. Et bon, j'ai abordé la langue parce que j'avais envie de chanter la musique. Et après, j'ai appris qu'elle c'est qu'à ajouter d'aussi chanter les paroles. De chanter les paroles. Et aussi, j'ai une façon de chanter qui ne montre pas l'effort de chanter. J'ai toujours chanté comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai fait. J'ai toujours chanté d'une façon un peu comme je parle, parlant. Mm-hmm. Que le chant n'est pas cet effort où on voit des grimaces, des... J'ai jamais fait ça et heureusement, je n'avais pas besoin de le faire.
Quelle place ont la vie même des compositeurs dans votre imaginaire d'artiste? Est-ce que quand vous chantez Mozart, puisque vous l'avez tellement, tellement, tellement chanté, ou Strauss, ou Bach, peu importe, ou quand vous rentrez dans l'œuvre de Puccini, comment vous arrivez à appréhender ces compositeurs-là, vous cherchez à les connaître mieux, au-delà de leurs partitions et de leurs œuvres?
Je crois qu'il y a quelque chose qui ajoute à la musique, mais ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il faut que la composition, que la partition a la force d'être seule. Si on n'a pas du tout de connaissance de la vie de compositeur, on a la partition. Et c'est ça qu'il faut travailler, la partition. Mais d'avoir des informations, ça ajoute un peu de comprendre que bon, à ce moment-là, par exemple, je viens de faire un disque de Mahler et que je sais que certaines paroles, il avait écrit lui-même parce qu'il avait le cœur brisé. Et ça, mais de savoir que c'est lui qui avait écrit des paroles, oui, c'est intéressant.
Mais pas plus.
Mais pas plus, parce que si c'était pas lui, c'était une autre personne qui avait écrit ces paroles, mais c'est les paroles de poèmes qui sont importantes et la musique. C'est beaucoup plus. Ça ajoute, je crois qu'il n'a pas les informations qui sont pas nécessaires, mais c'est qui s'ajoute un peu. C'est comme, moi je compare beaucoup à faire la cuisine parce que j'aime faire la cuisine, mais qui, oui, c'est bien, sans un peu de, si on met un petit peu de curry dedans, mais ça, c'est bien sans, mais si on met juste un petit peu, il a un petit après-goût qui est très bon. Ça veut dire qu'il s'ajoute pour moi. Ça peut ajouter pour moi de faire vivant le personnage de compositeur, mais je crois qu'il faut absolument voir que la partition pour être vraiment seule.
Quels sont les grands chocs que vous avez eus en lisant des partitions? Alors vous dites aimer tous les répertoires, mais est-ce que vous avez eu des chocs plus particuliers que d'autres entre un Mozart et un Duke Ellington? On imagine qu'il y a des séquences incroyables de moments où vous découvrez des œuvres. Et là, il y a quelque chose qui se passe.
Mais je ne dis pas un choc, mais je dis, mais il y a des moments où je suis tellement émue par la musique. Et c'est bien que ça, je suis émue à la maison parce que je ne peux pas être émue sur scène. C'est parce que je ne chante pas pour moi sur scène. Mais c'est pas le mot, mais je dis les moments profondeur
où d'extrême
émotion quand je suis très émue, ouais. Très émue.
Vous dites vous chantez pas pour vous sur scène.
Non.
Et ça vous savez très bien l'expliquer, ou en tout cas vous l'avez expliqué, mais donc vous travaillez ou vous chantez pour le public. C'est pas la même émotion que de chanter pour soi?
Non, parce qu'on chante pour soi, on peut être un peu plus émotionnel, penser des choses personnelles, oui, un peu indulgent. Mais là, il n'y a pas de place pour ça quand je suis sur scène.
Est-ce que vous avez le sentiment, Barbara Hendricks, d'avoir une grammaire particulière de la chanteuse que vous êtes? Est-ce que vous possédez une grammaire que les autres n'ont pas? Ou en tout cas qui désempare un peu les chefs ou les cinéastes?
Je ne sais pas, mais je Bon, je suis comme je suis. Mais je sais surtout pour les metteurs en scène d'opéra, parce que comme l'opéra a l'habitude et des fois besoin, à cause des distances, des gestes un peu plus larges qu'on fera dans une scène comme ici, par exemple, où nous sommes ici au théâtre, et quand le metteur en scène voit que je ne fais rien, bon, bien sûr, s'il m'a dit, vous entrez là, vous chantez ça là, ici, et vous passez par cette porte-là. Bon, je fais tout ça, mais au début, juste ce qu'il me demande. Et après, quand on commence avec l'orchestre, des choses arrivent et ça, la vie vient dans le personnage. Et ce n'est pas moi, j'essaie d'être Mimi, pas moi-même. Parce que sinon, si je commence à faire d'abord des choses que j'avais déjà faites, moi je joue Barbara, je ne joue pas Mimi.
Barbara Hendricks, vous êtes une grande artiste, vous êtes une mère de famille. Comment on peut circuler 100 fois, 200 fois par an dans des avions sur tous les continents et pouvoir avoir deux enfants, des maris, et gérer sa vie à la manière dont vous avez souhaité la vivre, c'est-à-dire en consacrant du temps à l'éducation de vos enfants, de l'amour, on imagine. Et ces deux enfants que vous les avez même portés pendant que vous chantiez au Corrigi d'Orange.
Oui.
Vous étiez enceinte.
Oui, deux fois.
Et comment vous faites?
Je ne sais pas. Bon, je crois que... Comme c'est que j'avais souhaité avoir une famille, d'avoir des enfants, et bon, j'avais fait ça avec intention. J'avais essayé de toujours garder ce qui est l'essentiel. Mes enfants savaient qu'ils n'avaient pas un conseil au monde qui était plus important qu'eux. Et je suis très reconnaissante qu'ils n'ont jamais abusé de ça. Mais voilà, et bon, j'ai deux enfants qui sont très drôles, on s'amuse ensemble. Il m'envoie des textes trop drôles, des choses qui les intéressent. Et maintenant, j'ai un petit-fils, parce que j'ai un petit-fils qui doit arriver le 25 décembre. J'ai dit, bon, du timing. j'avais envie de le faire. J'aimais toujours les enfants quand j'étais petite. C'est pour ça que je faisais beaucoup de babysitting jeune. C'était pas seulement pour gagner l'argent de poche, mais j'aime les petits enfants, j'aime les enfants, et je ne pouvais pas imaginer ma vie sans enfants. Mais bien sûr, si je n'avais pas pu, j'aurais peut-être adopté, mais j'aime beaucoup d'avoir des enfants autour de moi, et c'était important pour moi de organiser ma vie pour qu'il y ait, pour pouvoir faire les deux. J'ai expliqué à mes enfants que d'aller chanter, c'est quelque chose que je suis obligée de faire. C'est moi, parce que c'est moi, c'est qui je suis. Et je dois être vraie à qui je suis. Et toi aussi. Même si tu as fait quelque chose dont je ne suis pas d'accord, si tu penses que tu es vraie à toi-même, bon, tant pis que moi, je ne suis pas d'accord.
Toujours ce devoir de vérité, avec soi-même et avec les autres.
Oui, et d'être... Rester intègre.
Alors, vous êtes né dans les années 50, et dans les années 50 dans l'Arkansas, et vous êtes né, j'allais dire, dans la campagne. Votre mère a souhaité accoucher chez vos grands-parents, une grand-mère qui avait déjà 16 enfants, je crois. J'imagine que le contexte, non pas de la naissance, vous ne vous souvenez pas, mais ce contexte rural, ce contexte très familial, en fin de compte, a très rapidement marqué cette future adolescence, cette future enfant qui va grandir dans la ségrégation.
Oui, c'était quelque chose de très important, le chaleur que je trouvais chez ma grand-mère, qui était partie indienne aussi. Je crois que l'image que j'ai d'elle, c'est ses cheveux qui étaient faits dans une coiffure indienne au-dessus de sa tête, et le fait qu'elle était malade. Quand je suis née, elle était souvent au lit, mais elle a eu 16 enfants. Mais c'est une... Là, l'amour que je sentais, tout était bien pour moi, enfant, quand j'étais chez eux. Et c'est quelque chose que je garde cette chaleur dans mon cœur. Comme je dis, ça me donne énormément de force et que je ne veux jamais perdre... la petite Barbara qui est en moi, parce que c'est ma guide. C'est elle qui me guide.
La ville d'Orange a nommé son collège Barbara Hendricks. Quel effet ça fait d'avoir en France un collège à votre nom?
Bon, d'abord au début, je trouvais ça un peu drôle parce que j'étais pas encore morte et même pas si vieille à l'époque. C'était un honneur parce que j'étais choisie par les enfants. Et je me demande s'ils ne pensaient pas que c'était Jimi Hendrix et pas Barbara Hendricks, mais bon, n'importe. c'était très bien parce que j'ai eu une très bonne relation avec le collège. Je visitais souvent. J'étais là récemment pour les 20 ans de collège et je suis très fière. Je suis très fière des élèves. Je dis, c'est propre, il n'y a pas de tag. En plus, ils font beaucoup avec beaucoup de projets avec les droits humains dans l'école et c'est très bien. Bon, je suis fière parce que je suis fière des élèves de mon collège.
Pour cette dernière émission, une dernière question plus générale, Barbara Hendricks. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la manière dont fait de la musique? Comment les nouvelles générations travaillent la voix? Est-ce que vous avez un... Quand je vous pose la question, j'ai déjà la réponse, mais ce sentiment critique qui est souvent en creux dans la manière dont vous regardez le monde musical aujourd'hui. Est-ce que c'est une nostalgie qui s'empare de vous à ce moment-là? Au contraire, le regret qu'on ne regarde pas plus à fond ce que porte la musique aujourd'hui?
Bon, il a, je dis que mes jeunes collègues sont obligés de faire des choses très vite. Ils n'ont pas le luxe du temps que j'avais dans ma génération. Et ce n'est pas le faute à eux, c'est notre société aujourd'hui. Souvent, ils sont obligés de devenir stars tout de suite quand ils commencent la carrière, qui veut dire qu'ils ont moins de temps d'être hors des lumières, pour travailler, pour essayer des choses qui vont pas marcher. Parce que c'est important aussi de faire ça. De pas toujours avoir raison. Je dis, ah, peut-être pas ça, ce rôle-là. J'avais essayé, mais c'est vraiment pas pour moi. Parce que on apprend toujours quelque chose. Même si c'est pas un rôle qu'on va garder dans le répertoire, on apprend toujours quelque chose. Et c'est ce manque de temps de comme un plaque de mijoter longuement pour avoir de saveur. C'est un regret que moi, de mon point de vue, que j'ai pour eux. Mais je ne pense pas qu'ils le voient comme ça. Parce que comme ils n'ont jamais connu une autre époque, ils ne peuvent pas penser que peut-être il y a quelque chose qui manque. Mais je vois la place pour la culture et pour la musique dans les médias. C'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a une partie de la communauté qui ne sait même pas que ça existe. C'est pas seulement les gens qui n'en sont jamais allés au concert, mais avant qu'on avait des concerts ou les émissions quand le grand échiquier qui passait à 20h30, où les enfants, tout le monde avait la possibilité de voir les grands artistes comme Rostropovitch, comme Karajan. Et là, si on veut écouter la musique classique, il faut être insomniaque. Mais pour les enfants, c'est impossible. Et comme ils n'ont pas ça à l'école, là, ça, je suis assez triste parce qu'il y a une richesse, une partie de notre patrimoine qui nous rend culturellement pauvres.
Et en même temps, il y a 30 ans, les folles journées de René Martin n'existaient pas à Nantes ou à la Roque d'Anthéron. La Philharmonie à Paris n'existait pas. Donc il y a une sorte de paradoxe entre le fait d'avoir installé des initiatives dans le domaine de la musique classique, parle. Hein.
Oui, absolument. Mais je veux dire que ça reste un peu à part.
C'est de l'entre-soi, vous voulez dire?
Oui, mais je dis que ça faisait partie du paysage Il avait la musique pop, il avait la musique. Mais la musique classique, comme la littérature, faisait partie du paysage. Là, ça fait partie. C'est là, bien sûr, il a les endroits où les gens font des efforts extraordinaires, comme la Folle Journée, les maintes de Folle Journée de René Martin, parce qu'ils sont un peu partout. Mais il a une énorme partie de la population qui ne sont pas inclus. Et c'est là, avec la service public, c'est quelque chose pour tout le monde. C'est pas pour eux qui choisissent. Et ça, il y a 30 ans, c'était... moi, je me souviens des programmes, quand j'habitais à Paris, que j'adorais. C'était samedi, c'est France 3, qui étaient les pièces de Shakespeare. Et surtout les pièces inconnues qu'ils ont... Ah, j'adorais ça. Mais un samedi après-midi, on ne peut pas voir à 3 heures de Shakespeare. Parce que ratings et l'argent, oui, je crois que j'aurais aimé un service public plus costaud, qui avait resté dans ce qui est bien pour la société et pas juste ce qui est bien pour avoir l'audience.
Vous avez dit un jour que si vous étiez maire d'une grande ville, vous rendriez obligatoire l'enseignement artistique et musical, surtout à toute la population de la ville.
Oui, oui. Je rends la possibilité. Je n'allais pas forcer quelqu'un de le faire, mais surtout pour les enfants qu'ils puissent choisir, parce que ce n'est pas la musique pour tout le monde qui parle à tout le monde. Il y a peut-être la danse, la littérature, la peinture, mais on a une telle richesse. On a déjà un patrimoine qui est tellement riche. Et de penser que ça appartient juste à certains, je n'accepte pas, ça nous appartient tous, à tout le monde.
Un mot sur Arte Verum.
Bon, Arte Verum avait commencé, vraiment pas comme un label, ça a commencé parce que j'étais un artiste avec Amy, un artiste privilégié avec Amy, j'ai enregistré beaucoup, beaucoup de mon répertoire. Mais il y avait un moment que je sentais que, pas seulement Aimé, mais tous les grandes maisons de disques commençaient de perdre confiance dans notre répertoire, nos répertoires classiques. Et bon, j'avais un répertoire que j'aimais et que j'avais envie d'enregistrer. Mais il aurait me dit oui, mais les disques ne restaient pas dans le catalogue, ça restait 6 mois et après on pouvait plus les trouver, on faisait pas grand chose pour faire du marketing. Et bon, j'avais décidé de faire des archives, pas un label, de faire des archives. Et bon, j'avais un répertoire, j'avais chanté le Schönemüllerin de Schubert ou le Voyage d'hiver de Schubert. J'ai dit ok, j'enregistre juste pour moi, je donne ça à mes enfants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Et bon, après quand j'avais à peu près l'équivalent de 6 CD, mon producteur m'a dit mais tu sais, tu peux faire un label parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir la distribution de un des grands maisons de disques. Ah, je dis oui, mais j'ai encore encore l'exclusivité, encore 6 mois chez EMI. Et bon, ici me téléphone pas pour à faire un prolongement, je suis libre. Et bon, j'attendais, je crois que quelque chose comme un 15 mars, j'étais sur le canapé chez moi, je prends le téléphone, je dis « Ok, on y va ». Et ça, où est né mon label qui est Arte Verum, on revient à la vérité.
La vérité. L'art et la vérité.
Oui, l'art, la vérité dans l'art aussi. Ah, et voilà, depuis 2006, on avait fait, j'ai fait plus que... Combien ? Une quinzaine de disques. Et le dernier qui va sortir, c'est les leaders de Gustav Mahler.
Ultime question, Barbara Hendricks. Quel est votre grand regret dans la vie ?
Je n'ai pas.
Aucun regret ?
Non. Non, mais parce que je fais avec ma vie ce que je pensais dans le moment d'être les choses que je devais faire. Et je continue comme ça. Et des choses... Comme je dis, les choses, même les choses qui n'ont pas marché, où je dis, ah oui, j'aurais dû pas prendre cette décision, je continue d'apprendre quelque chose. Mais c'est ça la vie. Moi, je suis là pour apprendre, de partir avec plus que de mon bagage que j'avais quand je suis entrée. Et j'espère d'avoir laissé un petit éclairci de lumière un peu derrière moi. Et voilà, ça veut dire que je dois accepter tout qui m'est passé dans la vie comme nécessaire.
Au fond, vous vous sentez plus libre aujourd'hui qu'hier ?
Oui, bien sûr, parce qu'avec l'âge, on est un peu plus libre, non ? Beaucoup plus libre, mais je veux dire que même la mort ne peut pas prendre ma liberté.
Merci beaucoup, Barbara Hendrix.
Fin de cette rencontre de Jean-Michel Dian avec Barbara Hendrix. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, réalisation Jean-Christophe Francis, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre. Oh,
Fidelità, fidelità.